Bien, bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Georges Martin, directeur de la communication de l'association Droit de Naître, et Arnaud Upinski, mathématicien, épistémologue, et qui...
Linguiste.
Linguiste, etc. Bon, vous avez beaucoup de casquettes.
Voilà.
Et puis, qui vient de pondre cet appel du peuple souverain français contre le permis de tuer pour tous. Et j'ai donc intitulé cette émission « Euthanasie, nouveau crime contre l'humanité ». Voilà. Et comme d'habitude, je lis alors là quelques lignes simplement de ma poésie française. Florilège critique et passionné de notre poésie des origines à nos jours. Et nous sommes toujours avec le groupe des Pléiades, après avoir longuement étudié Ronsard et Dubellay, les plus connus. Nous aurons par exemple, je vais simplement le citer pour quelques lignes, Étienne Jodel, 1532-1573, imitateur de Sève, de Maurice Sève, dont il n'a retenu qu'une caricature. Il distille, entre autres, dans la cinquantaine de sonnets qu'il laissa, un masochisme de potache, plein de chevilles, de rodomontades et de platitudes. On y trouve le pire, rarement le passable et le plus souvent l'ennui, ce qui n'empêche pas certains critiques contemporains de parler à son endroit de chef-d'œuvre et de génie. On dit par ailleurs qu'avec sa Cléopâtre captive et sa Didon sacrifiée, il aurait renouvelé l'art théâtral. J'avoue humblement n'avoir pas été plus avant y voir. Eh bien, je vais donner la parole tout d'abord à Georges Martin. Peut-être qu'on peut l'euthanasie, on peut lui demander de dire un peu où on en est du point de vue législation, où on en est. Il y a des votes en ce moment à l'Assemblée, si j'ai bien compris.
Oui, Daniel, je vous remercie beaucoup de votre invitation ici. Donc, je voulais vous dire, notre mouvement suit depuis des années ces projets à propos de l'euthanasie, parce que nous faisons en action des lobbying.
Oui.
Nous faisons une pression vis-à-vis des députés, sénateurs et autres. Et donc, la loi a été refusée deux fois au Sénat, mais vous savez qu'en France, le Sénat, malheureusement, n'a pas un pouvoir final comme dans les autres démocraties.
Oui.
Et donc, c'est l'Assemblée nationale qui va décider en troisième lecture. Malheureusement, comme le Sénat a refusé en bloc la loi, donc n'a pas donné sa version. Donc l'Assemblée nationale va revenir à sa version. Donc sa version, qui est une des versions, on peut dire, les plus radicales, les pires de l'histoire du monde, je veux dire, en matière d'euthanasie.
Même en Belgique, par exemple.
Ce sont des enfants de cœur. En Belgique, en Hollande, au Canada, ce sont des enfants de cœur. Par les simples faits, et je remercie beaucoup parce que j'ai lu les livres de M. Upinski, qui le dit de manière très claire, et je suis très content de l'avoir ici, parce que ils ont mis quelque chose qui est atroce, c'est les délits d'entrave.
Ah oui,
à l'euthanasie.
Comme ils l'ont fait pour l'avortement. Voilà, vous suivez aussi, bien sûr.
Mais plus grave encore, parce qu'on peut, il y a deux dans la loi qui a été votée et qui va être au mois le 22 juin va être discutée de nouveau à l'Assemblée, mais on connaît très bien les personnes parce que vous savez la gauche est majoritaire si vous comptez les socialistes, le parti du président, que la plupart 70% sont des ex-élus de 67%, pour commencer, les présidents du groupe Attal, ex-socialiste, n'est-ce pas? Et donc, dans les gouvernements, la gauche a toujours été pour les lois, pour avortement, pour euthanasie, à niveau mondial.
Bien sûr, oui.
Pour une question, on peut dire, pas seulement psychologique, mais une question d'identité. Donc, eux, ils vont voter toujours des excès.
Et c'est le matérialisme, finalement.
Voilà, le matérialisme. Et donc, le 22 juin, ils vont commencer à discuter la troisième lecture, qu'on la connaît déjà, c'est la même, mais ça peut être un pire. J'ai peur que ça peut être un pire. Parce que
ouais, ça peut être pire, ouais.
J'ai peur, voilà, donc je vous dis la vérité.
Et donc ça passe quoi, en juin là,
les 15 juillet sera les votes finales.
15 juillet.
Voilà. Ouais. Donc nous mobilisons, bien sûr, déjà on a fait une pétition en disant, en suivant un peu, en disant aux députés, si vous votez, vous ne serez pas réélu. Voilà, tout simplement, parce qu'on va faire, donc il y a déjà une pétition en ligne, si vous allez sur le site des droits de naître Action, vous allez voir notre répétition adressée aux députés. Et en même temps, puisque je suis à la radio, je fais un appel à nos autorités religieuses, surtout, et notre grand chef, le pape, en Espagne, vient de faire hier, un discours, ce qu'on appelle dans les chambres, ça veut dire là, ils ont réuni l'Assemblée nationale et les Sénats, et les papes, les points forts, c'est la défense de la vie, contre l'euthanasie, contre l'avortement, en disant qu'une civilisation ne peut pas s'éteindre si les élites ne défendent pas ça. Il sait qu'il dit, bien sûr, on doit respecter la démocratie, mais c'est leur rôle de défendre. Oui, donc on voit qu'en France, on a un rôle un peu inversé. Pas tous. Grâce à Dieu, nous avons des députés et les Sénats ont prouvé d'une manière très claire qu'ils ont un sens un peu plus clair de la notion de la vie, parce que la vie est sacrée. Et deuxième chose, qui à mon avis est très important, on trompe les personnes. Et je pense que là, les professeurs, je ne sais pas comment je dois vous appeler, professeur, il pourra vous... Nous expliquer, parce qu'on est tout à fait d'accord.
On va lui poser la
question. Parce que nous-mêmes, dans les combats pour la vie, on a une grande différence avec les autres mouvements pro-vie, c'est qu'on n'a jamais accepté un mot passe-partout. On a toujours dit avortement. Parce que l'autre mot qui est abrégé, on essaie de ne jamais les prononcer. Ouais. Parce que c'est un mot justement pour tromper.
Bien sûr.
Parce qu'il n'y a pas d'interruption.
Oui, comme en euthanasie, on dit évidemment l'euphémisme. Et l'aide à mourir, par exemple, etc. Enfin,
tout à fait.
Voilà. On est dans un monde de mensonges, de dissimulation. Quand quelque chose est inquiétant, on le met sous le tapis. Voilà.
Bon. Et on est très content d'avoir un homme qui connaît la langue ici, qui pourra nous expliquer un peu
combattant.
Plus.
Un combattant. Voilà. Alors, Arnaud Ipinski, vous avez plein de choses à dire.
Oui, donc, bonjour, merci de nous inviter, de m'inviter, puisque c'est la deuxième émission seulement sur le sujet.
Ouais.
Bon, j'ai été reçu par Charles Gave.
D'accord.
Et si j'ai écrit cet appel du peuple français contre le permis de tuer pour tous, c'est, comme il m'arrive souvent, les cas désespérés sont les cas les plus beaux, c'est parce que finalement, j'estimais que personne n'avait traité le sujet au bon niveau et sous le bon angle. Donc, cela m'a demandé un très gros travail, parce que c'est très difficile de trouver les bons mots, et de rentrer dans un cadre contraignant, c'est-à-dire de sortir de ce débat d'opinion qui ne veut rien dire, puisque l'opinion, c'est l'ennemi de la pensée. Donc, il faut passer au stade de la pensée. Et j'allais dire que la pensée, c'est un métier. C'est-à-dire que la logique a pour titre l'art de penser. C'est-à-dire que le syllogisme, c'est un enchaînement. Bon. Et là, évidemment, tout est fait, et vous avez prononcé le bon mot en disant que la bonne chose, c'est-à-dire qu'il faut appeler les choses par leur nom. Le fait déterminant, enfin, un des faits déterminants, c'est que cette loi est contraire à la Constitution, puisqu'elle n'est pas écrite en français, dans la langue de Molière. Et ça a été remarqué, je dis, par Dominique Régnier, par Philippe Juvin. Ce qui étonne, c'est que les mots « mort », le mot « mort », par exemple, la fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire, la fin de vie, la loi sur la fin de vie? La fin de vie, ça commence à la retraite, ça commence quand on veut. Donc, c'est une loi sur la mise à mort. C'est une loi de meurtre. Donc, il faut trôner le bon mot. C'est-à-dire que, déjà, l'Académie française, qui trahit, évidemment, qui est complètement à la remorque et qui trahit totalement, a accepté dans son dictionnaire, la 9e édition, le mot « létal ». Le mot létal n'existait pas dans le dictionnaire de 1935. C'est mort. Une injection létale, c'est une injection mortelle. Donc si on n'appelle pas les choses par leur nom, eh bien ce n'est pas écrit en langue française. Bon, et pourquoi ce n'est pas écrit en langue française? Parce que si c'était écrit en langue de Molière, je vous rappelle le malade imaginaire et le lien de Molière avec la médecine, si vous voulez, eh bien ça serait inacceptable. Et ils savent très bien que les mots ont une charge affective, morale. Vous avez parlé de l'avortement IVG. Donc, vous sortez du champ sémantique normal. Donc, vous rendez inintelligible le texte pour le peuple souverain, la volonté générale, et vous permettez évidemment de tourner le code pénal.
Ouais.
Parce que donc, premièrement, ce n'est pas écrit en langue française. Et déjà, c'est auto-condamné. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'apprend pas les bons mots, il se condamne lui-même. Donc cette loi est irrecevable.
Bon. Ouais.
Deuxième chose qui est capitale, et c'est pour ça que j'ai écrit cet appel du peuple souverain, et pas au peuple souverain.
Ouais, ouais.
Je vous dirai pourquoi si vous m'en laissez le temps. Mais c'est surtout, dès le début, je donne le ton. Donc, c'est au nom de l'Union nationale des écrivains de France, parce que c'est un problème de langage, si vous voulez. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le but, si vous voulez? Et appel du peuple souverain français au nom de toutes les autorités démocratiques, morales et religieuses. Et Robespierre est tombé parce qu'il ne savait pas au nom de quoi il devait continuer. Donc quand vous parlez au nom de toutes les autorités, qui ne contestent pas d'ailleurs, c'est que vous avez l'autorité absolue.
Oui.
Puisque personne ne peut contester ce qui est dans ce manifeste. Et au-dessous, condamnons du chef de crime contre l'humanité, et j'ai noté que vous aviez dit que c'est un crime contre l'humanité, et frappons d'inéligibilité, et j'ai bien retenu que vous intervenez sur les députés, avis, tout député qui voterait la loi de mise à mort des plus vulnérables. Et nous en parlerons sur la stratégie, si vous voulez, parce que ce que, là j'applique la méthode Foch, si vous voulez, c'est que la conduite de la guerre m'a appris, dit Foch, que pour vaincre, et nous devons vaincre, il faut un but, un plan, une méthode. Je vous le dirai en détaillant.
Bon.
Mais donc, le point important, si vous voulez, c'est que toutes les autorités condamnent. C'est-à-dire que les autorités religieuses, quelles qu'elles soient, vous avez la philosophie des Lumières, les Lumières, la philosophie, la raison ne peut que condamner. D'ailleurs, ils ne disent pas qu'on a le droit de donner une piqûre, non pas létale, mais mortelle à quelqu'un. Et donc, morale et religieuse. Donc, si vous voulez, ce qui est assez fantastique dans cette histoire, c'est qu'aucune autorité ne soutient et la loi continue.
Ouais.
Et ça, c'est hallucinant. Si vous voulez, c'est... Et en plus, vous ne l'avez pas dit, mais vous le savez certainement, c'est que quand vous faites une loi ou quand vous faites des procédures, comme j'en ai fait toute ma vie, vous avez, si vous voulez, vous donner l'exposé des motifs, comme on dit. Pourquoi faire cette loi? Et quand vous voyez d'où ça vient, cette loi, cette proposition d'un député lambda... Et quand vous étudiez sa vie, vous apprenez des choses intéressantes, mais je ne le ferai pas. Si vous voulez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un individu qui décide la mise à mort de centaines de millions, de milliers, pardon, de personnes. Mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde, si vous voulez? Bon, et donc,
Je vous coupe un instant, et vous le mentionnez dans les livres, ben, d'une manière, d'une phrase, pas beaucoup, mais la personne qui voulait cette loi, c'est le président Macron.
Oui, bien entendu.
Donc, c'est lui qui...
Oui, mais je mets les deux.
Voilà.
C'est pour ça que je mets les deux ensemble. Bon, tu les bons. Et donc, l'objet... Donc, j'ai écrit ce manifeste comme base de référence. Quand vous avez eu le J'accuse de Zola, tous ceux qui étaient favorables se sont solidarisés, et moi j'entends que ceux qui sont vraiment... qui veulent se battre... prennent comme Bible, si je veux dire, cet appel du peuple souverain contre le permis de tuer pour tous, c'est un permis de tuer pour tous. Et, bon, je vous répondrai pour la stratégie, mais la clé, c'est de savoir dans quel monde on est. Nous sommes dans une affaire criminelle. C'est une loi criminelle.
Oui. Tout à fait. Oui.
Donc, si c'est une loi criminelle, ceux qui... Il faut remonter. L'intérêt de la science, c'est de remonter le fil, si vous voulez. Donc, d'abord, c'est une affaire policière, donc il y a une arme, un mobile et des victimes. L'arme, c'est la langue.
Ouais.
Ils ont truqué le langage, si vous voulez. Bon, déjà, ils sont condamnés. Le mot mort n'y est que deux fois, si vous voulez. Bon, le mot mort n'y est que dans l'exposé des motifs. Et l'exposé des motifs, tenez-vous bien, c'est la démocratie a conquis toutes les libertés. Il n'en reste plus qu'une à conquérir, l'ultime, c'est le choix de la mort.
Ouais.
Voilà ce qu'ose dire... C'est exposé des motifs. Mais ce qui est très intéressant, c'est de retourner. C'est-à-dire que cette loi est une occasion unique de démasquer les imposteurs, et c'est pour ça que je dis dans ma quatrième page de couverture, de cette logique de mort, Arnaud Lupinski tire l'occasion unique, c'est une occasion unique, d'une stratégie de résurrection de la France prédestinée à reprendre la tête de la civilisation, c'est-à-dire que là, ceux qui sont derrière la loi se sont démasqués, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ne se réclament pas des droits de l'homme, et j'invente, excusez-moi, ou plutôt j'expose, le premier des droits de l'homme, c'est c'est de reconnaître, si vous voulez, que le caractère inaliénable et sacré de la vie humaine. Ouais. Donc, cette loi enfreint le premier droit de l'homme. Parce que si le premier droit de l'homme, c'est pas le droit à la vie, je me demande à quoi servent les autres. Voilà, oui. c'était mon introduction. Mais je vous donnerai, vous me laissez un instant, la stratégie pour vaincre qui est exactement dans votre logique, mais en la poussant un petit peu jusqu'au bout.
Ouais, ouais. Et alors, la grande prétention aussi de cette loi d'euthanasie, de ces projets, de ce projet, c'est de mourir dans la dignité, vous savez. C'est le fameux truc, comme si quand on meurt à l'hôpital malade, on n'est pas dans la dignité. Enfin, c'est les trucs. Alors, ça m'évoque la phrase de Léon Blois qui dit, je ne sais plus dans quelle œuvre, il est bizarre que des gens veulent mourir dans la dignité alors qu'ils ont vécu. Attendez, alors qu'ils ont vécu une vie de cochon. Oui, non, la phrase exacte, c'est « il est étrange, il est vraiment... » On peut se demander, on peut même demander aux autres que des gens qui ont vécu une vie de cochon ne veulent pas mourir comme des chiens.
Voilà, c'est le point essentiel, parce que je souhaite, et je vous remercie, que cette émission soit vraiment, grâce à vous d'ailleurs, parce que nous comptons sur vous, hein, oui, c'est que ça soit... Je vais vous expliquer comment nous pouvons gagner et nous devons gagner. Voilà. Et si c'est par malheur cette loi passée, il faudra l'abroger comme Banater a supprimé la peine de mort pour les assassins et ils établissent la peine de mort pour les plus vulnérables. Et là, je voudrais insister sur un point très important. Ouais. C'est que le langage a deux pôles. Quand vous regardez un dictionnaire, il y a un nom et un antonyme. Le bien, le mal, le jour, la nuit.
Ouais.
Et dans la vie, chacun de nous tend vers un pôle. C'est-à-dire que ou vous prenez le pôle du mal, ou vous prenez le pôle du bien. Ouais. Et le langage vous aspire vers un des pôles. Donc, ce que dit cette loi, c'est que nous sommes dans un régime criminel.
Ouais.
C'est-à-dire que ce n'est pas que cette loi qui est criminelle. Et tout le monde actuellement, à juste titre, manifeste pour l'affaire Liana, mais Liana, c'est l'affaire générale. Seulement, comme le disait Gandhi, ça rend l'injustice visible. Quand vous voyez le sort de nos paysans, et quand vous voyez comment ont été traités dans l'affaire du sida, et moi je suis immergé dans le monde médical, je suis immergé dans le monde pharmaceutique, il faut voir l'abomination de ceux qui sont morts, alors que le fameux Macron dont vous parlez, si vous voulez, qui manie la magie politique dont Perlon le parle, il avait dit il y avait ça serait un consentement éclairé pour le vaccin. Et quand on voit comment ce consentement éclairé a été violé en permanence, comment vous voyez comment sont traités par la réglementation nos paysans, et quand vous voyez la justice, vous comprenez bien que certains qui parlent de garde-fous, ils disent, il y a des textes qui disent les garde-fous ont été enlevés, mais le garde-fou, il y en a deux qui surplombent l'humanité de tout temps. C'est « tu aimeras ton prochain et tu ne tueras pas ». Les garde-fous, c'est dans la conscience. Et le but de cette loi, c'est d'inverser la conscience, c'est-à-dire d'inverser... tout le monde sait qu'il vaut mieux pas tuer, si vous voulez. Mais là, c'est de planter une banderille dans le cerveau de des soignants et des autres en disant « on peut tuer maintenant à certaines conditions ». Et j'ai assisté à la Cato, à une conférence avec une brave personne qui était du côté des soins palliatifs, qui a dit « le monde médical, les soignants ont d'abord été complètement choqués et maintenant ils demandent comment s'adapter ». Et c'est exactement ce qu'on nous a raconté sur la dernière guerre et ailleurs, c'est-à-dire c'est la collaboration avec le crime. Donc là, on est affaire à une affaire de magie politique, si je peux dire, une emprise...
Sorcellerie. J'utiliserai les mots plus tard.
Sorcellerie. Et je veux dire une chose très simplement. Les deux garde-fous de l'humanité, c'est tu aimeras ton prochain,
comme
que certains
même, d'ailleurs.
Ont traduit la fraternité, soi-disant patati tata, sans père, fatété. Et la deuxième chose, tu ne tueras pas. Or, vous l'avez cité, le délit, quel est le délit? Parce que tout ce qui est fait actuellement est condamné, je ne voudrais pas oublier de le dire, par un, le code de la santé, 2, le code pénal, 3, le serment Hippocrate et le décalogue. Donc, quand vous avez des gens qui se réunissent dans un palais Bourbon, parce que palais Bourbon, ça fait sérieux le palais Bourbon, et qui préparent quelque chose qui est interdit par toutes les lois. Comment ça s'appelle ? Au titre du code pénal, c'est une association de malfaiteurs. Mmh. Et j'ai un avocat à la Cour de cassation qui m'a dit « c'est drôle ». Ce n'est pas drôle du tout. C'est ce que ça veut dire. Et le même avocat me dit « ce sont les mots qui comptent ». Or, les gens qui veulent violer le code de la santé, le code pénal et toutes les morales, c'est une assemblée de malfaiteurs. Mmh. Et les députés, je dois le dire, n'ont aucune autorité, bien au contraire, pour voter cette loi. Donc cette loi est irrecevable. Mmh. Et quand vous voyez d'ailleurs la qualité morale, intellectuelle et autres de ces 577 personnes, vous dites « comment ?» Il pourrait, s'il est décidé, et j'anticipe par rapport à ce que vous dites. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que chacun de nous peut parler au nom du peuple souverain. C'est-à-dire que quand je dis 2 plus 2 égale 4, je parle au nom des mathématiques. Quand toutes les autorités morales condamnent une chose, chaque Français, chaque personne peut parler au nom du peuple souverain. Ouais. Et ce qu'il faut maintenant, c'est interpeller chaque député par téléphone, en le voir. Tu dis, mon petit bonhomme, toi, tu vas décider la picouse pour me tuer ? Mais de quel droit ? Qui es-tu ? Et là, quand vous le regardez dans les yeux, comme le disait un certain Chirac, à ce moment-là, bon, il y a seulement 37 personnes à déplacer. Je donne le chiffre, je donne le nom des délinquants, parce que ces députés sont délinquants, et il faut agir en tout bien, tout honneur, pour qu'elle est déplacée. Et vous ne l'avez pas dit, mais c'est implicite, il y a eu une commission paritaire mixte qui, entre le Sénat, et il faut se demander pourquoi le Sénat est contre et l'Assemblée est pour. Yeah. Où est la volonté générale du contrat social ? Là, déjà, il y a un problème. Si la moitié de la volonté générale est pour et contre, ça veut dire que c'est déjà irrecevable. Mais pourquoi, je vous donne le truc, pourquoi est-ce que les sénateurs sont contre ? Eh bien, j'ai fait la moyenne d'âge, et vous comprenez très bien, ils sont beaucoup plus près de la tricoule, si vous voulez. Et alors, ça, c'est une chose. Et alors, moi, j'ai quelqu'un qui me dit que dans les EHPAD, il y aura une liste de ceux qui ont une bonne retraite et ceux qui ont une mauvaise retraite. Oui, c'est pour ça que tu ne tueras pas, c'est la loi inviolable. Sinon, tous les calculs sont possibles et l'abomination. Donc moi, le message que je lance, et qu'on en parlera après, il faut, par tous les moyens, empêcher, vous avez donné la date fatidique du 14 juillet, un crime de plus, si vous voulez, pour agir, pour interpeller personnellement, c'est chaque député qui est coupable d'un crime contre l'humanité, individuellement. Et à Nuremberg, il y en a qui ont dit, mon chef, c'est mon chef qui était coupable. Eh bien, quand il y a un crime contre l'humanité, chaque député est coupable, et c'est pour ça qu'il faut être inéligible à vie, si vous voulez, et qu'il faudra les suivre, et je pense qu'il faut un casier judiciaire des députés, si vous voulez, en expliquant bien ce qu'ils ont fait. Et là, c'est gagnable. Il y a 8%, si vous voulez, il y a un nombre infime sur les à déplacer, si vous voulez, seulement 37 voix. Et si chacun s'en mêle, ça sera une victoire, et ça sera la première victoire, parce que vous avez dit, vous avez parlé des décences sociétales dans tous les domaines, là c'est l'ultime, c'est le droit à la vie, la personne sacrée, et cette victoire, si elle est emportée, elle doit être emportée, et elle sera emportée, à ce moment-là, nous pouvons retourner, si vous voulez, et ressusciter la France, prédestinée à reprendre la tête de la civilisation, en montrant au monde entier que nous savons nous battre.
Et s'occuper de l'avortement après.
Tout à fait. Aussi. Et je reviens sur un point qui, à mon avis, est primordial. Vous parlez très bien de 37 députés, mais curieusement, il y a aussi 37 députés qui sont abstenus. Oui. Donc cela, à mon avis, c'est plus facile déjà.
Je donne la liste.
Oui, vous donnez la liste, très bien fait. Exactement. Et donc la différence est petite. Et deuxième chose, ça montre comment les pétitions, parce que nous avons demandé d'écrire par email, de parler aux députés. J'ai contacté quelques-uns, bien sûr. Grâce à Dieu, c'est pas 100% mauvais. Il y a quelques-uns qui se sont battus. Oui. Moi-même, j'étais à l'Assemblée nationale et j'ai assisté à des débats. C'est quelque chose d'ignoble. J'ai vu le docteur Chouvent, hein, par exemple, que vous l'avez connu peut-être. Lui-même, il est médecin. Donc, il connaît son métier. Mmh. Il a demandé des choses de bon sens en disant, écoutez, mais pour une personne handicapée, il faut au moins un psychiatre, cavale, il faut 2 médecins. Il s'est levé à un autre médecin socialiste en disant, écoutez, monsieur, ça c'est une loi des sociétés, vous pouvez pas aller contre, donc démocratiquement, vous avez tort. Comme ça. Donc, on revient à la dictature des années Mitterrand 80 ans. À l'époque, vous êtes minoritaire, de manière démocratique, vous ne pouvez pas avoir raison. Deuxième chose qui, à mon avis, est intéressante, donc, il suffit de conquérir une minorité, comme vous dites, c'est 37, plus ceux qui sont abstenus. Deuxième chose.
On s'est déplacé sur les 199. Voilà, parce qu'il y a 199 pour, et il faut en déplacer seulement
37.
37,
voilà. 37, voilà. Et deuxième chose qui, à mon avis, est intéressant à savoir, et à mon avis, c'est là où on touche du doigt. Pourquoi les personnes de la gauche, Parti Socialiste, Parti Mélenchon, ils ont toujours dit « on n'est pas pour Macron ». Et pourquoi ils vont faire la volonté de Macron ? Donc je me pose la question, si les personnes, pas moi, je ne vais pas le faire bien sûr, mais on pourrait écrire, écoutez, vous êtes élu en disant que vous êtes contre les partis au pouvoir. Mmh. Et maintenant, voter pour une loi du pouvoir, donc c'est illogique dans la logique de la gauche. Ouais. Donc c'est quelque chose de bon sens que, où se trouve la logique même de la gauche. Donc ouais. Voilà à mon avis ce qui est intéressant à retenir c'est parce que c'est la gloire à Macron cette fois. Il va dire que son quinquennat a gagné grâce à que cette loi est passée.
Parce que c'est la seule loi qui devrait passer. Loi, et tout le monde peut comprendre parce que tout le monde mourra un jour.
Tout à fait.
Aucune, bon. Ouais. Donc si vous voulez, cette loi nous intéresse tous et tout le monde peut comprendre. Avec un minimum d'explication, un, que c'est un crime contre l'humanité, et qu'un système qui se recommande d'un crime contre l'humanité, comme vous voulez le faire, c'est un système criminel. Donc notre système ne marche pas. C'est un système qui est criminel en soi, et la victoire que nous devons obtenir
tout à fait.
Doit inverser le système des valeurs pour revenir aux valeurs personnelles, parce que nous sommes dirigés par les abstractions, nominalistes, réalisme. Et je pense, en vous écoutant, à la phrase de Léniel, qui avait dit à l'époque de Mitterrand, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire.
C'est ça, Léniel.
Or là, on tombe dans les mathématiques politiques. Oui. L'élection, c'est une escroquerie, si vous voulez. C'est un système mathématique, et vous le voyez dans les sondages, on vous dit, les Français veulent ça, mais les députés ne veulent pas ça, etc. Et cette loi montre, et ça a été très bien dit d'ailleurs par Dominique Régnier qui a fait c'est que non seulement les Français sont contre cette loi, et en plus on a tout fait pour empêcher qu'ils comprennent. Donc c'est une escroquerie. Et dans en droit, vous avez l'escroquerie au procès, mais là c'est l'escroquerie à l'élection. Donc il faut rétablir un système politique véridique. Et je termine par la magnifique phrase, si vous voulez, de Cochin, Augustin Cochin, sociologue mort en 14 comme les meilleurs, qui disait, je pèse mes mots, la révolution, c'est le peuple qui passe des mains de ceux qui ont le droit de commander à ceux qui ont l'art de mentir. Et donc la révolution à laquelle j'invite, c'est de revenir de ceux qui ont l'art de mentir, droit de commander. Et ceux qui ont le droit de commander, ce sont ceux qui ont fait leur preuve, si vous voulez. Et le drame actuellement, c'est que ce système met au pouvoir des menteurs, si vous voulez, structurels. Et comme je vous dis, il y a deux pôles, et la Solzhenitsyn l'a dit, le mensonge et la violence vont ensemble. Et actuellement, le mensonge et le crime contre l'humanité vont ensemble. Et cette victoire, nous pouvons la gagner et nous devons la gagner.
Et surtout, je pense à mon avis, il ne faut pas se laisser berner par des journalistes qui disent toujours « Non, c'est une loi qui a plein, avec plein de... c'est une loi qui seulement si vous demandez... la loi telle qu'elle est écrite, il suffit que le gouvernement dise « Voilà, on est en dette. » C'est vrai, la France est endettée, n'est-ce pas ? Donc, malheureusement, on doit appliquer la loi largement. Donc, il suffit tout simplement de dire ça parce que la loi serait déjà votée. C'est 800 000 personnes qui pourront passer.
Mais la loi, en plus, c'est un mot qui ne veut rien dire, la loi.
C'est vrai.
Bon, la loi, l'Assemblée nationale, si vous voulez, c'est pas elle qui décide, puisqu'au-dessus, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est pas lui qui décide, théoriquement, c'est le bloc constitutionnel. Le bloc constitutionnel, c'est pas lui qui décide, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et que vous dit les droits de l'homme ? C'est que ce n'est qu'une expression des droits naturels inaliénables et sacrés. Et le sacré vous renvoie au-dessus. Donc vous avez la loi divine, la loi naturelle, après la loi des droits de l'homme, etc. Donc si vous voulez, justement, le sacré et la vie humaine est inaliénable et sacré. Et en s'attaquant à ce à quoi on ne peut pas toucher, c'est-à-dire le sacré, eh bien, ils ont perdu toute autorité. Ces députés ont perdu toute autorité. Et ce sont des criminels qu'il faut poursuivre comme tels. Et ce que je vous dis, c'est imparable.
Et deuxième chose, nous sommes catholiques, je ne sais pas, dans votre cas, j'imagine que oui, et nous constatons que les clergés catholiques, qui quand même représentent une majorité de la nation, parce qu'on est plus de 60% des baptisés, ils pourraient demander à faire des processions, délier des prières, parler dans tous les sermons, et demander aux personnes, j'étais dans une église en banlieue de Paris, où je vis des affiches contre l'euthanasie, mais j'ai assisté au desserrement, le prêtre n'a pas parlé contre l'euthanasie. Bon, deuxième chose, j'étais à pas mal d'églises que je fréquente, et Jamais j'ai écouté parler, seulement une fois j'ai écouté parler, ah, il va avoir une marche pour la vie, mais il contrôle l'euthanasie. Mais personne n'utilise les mots euthanasie. Je pense, à mon avis, il n'a pas le droit à mourir. Parce que je pense, là, comme vous l'expliquez très bien, on change l'essence des mots. Mourir de la dignité, tout ça, sont des mots qu'on ne peut pas dire, parce que ce n'est pas la réalité. On tue des personnes. On va massacrer une civilisation. Deuxième chose, qu'à mon avis, qui est intéressante, donc nous avons écrit au clergé pour réagir, nous n'avons pas eu beaucoup de réponses, mais je pense, à mon avis, qu'il a aussi, parce que les bons dieux envoient des grâces, si les personnes, d'abord, l'histoire est faite des minorités, mais une minorité agissante. Les apôtres n'étaient que 12.
Il faut que les...
Et ils ont changé l'histoire du monde.
Excusez-moi, techniquement, qu'est-ce que dit la loi sur cette fin de vie? Sur ce droit de tuer, etc.
Oui, tout à fait. J'ai apporté ici...
Techniquement, comment ça se passe? Quel est le droit du médecin?
Je vous explique. Voilà. Il suffit que la personne fasse une demande. Le médecin doit l'écouter. Il doit prendre note s'il peut. Si la personne n'a pas, il peut donner par écrit avant, s'il se trouve dans l'impossibilité, ou un membre responsable, ça veut dire quelqu'un de la famille, dit « Ah, il avait envie de mourir ». Il suffit qu'il dise « Il a envie de mourir ». Oui. Tenez-vous bien. Oui. Vous savez, quand vous achetez un produit, vous avez 2 semaines, 15 jours pour rendre les produits. On dit, écoutez, les produits, hop, la société doit vous rendre. Quand vous signez un contrat, c'est la même chose. Là, vous n'avez que 2 jours. Si en 2 jours, vous ne revenez pas en arrière, hop, ça va jusqu'à la piqûre finale. D'accord. Et donc, il a des cas concrets au Canada, déjà, d'une personne qui avait demandé, mais après, dernière, non, je ne vais pas. Ah, désolé, vous l'avez déjà demandé, hop. On les pique quand même. Donc, première chose, c'est 2 jours les délais des réflexions. Deuxième chose, les médecins, ils peuvent, mais un seul médecin peut décider. Donc, j'écoutais, donc vous avez demandé, mais combien de fois des personnes, ils ont perdu, ont été volés, ah, j'ai plus envie de vivre. Si le médecin entend ça, il est obligé à appliquer la loi. Sinon, ça va entrave à la loi de l'euthanasie. 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Et il y a une deuxième entrave que j'ai oublié de vous dire, parce qu'ils ont voté 2 entraves, en fait. C'est plus que l'avortement. Et même, on ne peut pas diffuser des matériels et des écrits. Ça veut dire, votre livre, après, ne pourra plus être diffusé, édité. C'est déjà, heureusement, vous l'avez écrit avant. Parce que selon la loi, c'est interdit même d'écrire. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont mis une barrière qui c'est impossible après pouvoir faire des pétitions, agir.
Non mais...
c'est diabolique, disons d'une manière très claire.
Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intention. Voilà. Bon, je dis le permis de tuer pour tous, c'est pour la famille, pour toutes les pressions, si vous voulez. Donc maintenant, c'est une fois que le verrou est sauté, quand on dépasse limite, les bornes, il n'y a plus de limite.
Après l'avortement, je pense qu'on a dépassé beaucoup les limites.
La loi, c'est tu ne tueras pas. Là, c'est l'aide à mourir. C'est déjà un mensonge. C'est
tuer.
C'est tuer. C'est la possibilité.
Ouais. Mais tu amasses en plus.
Il faut lire dans le texte la perversion de ces gens qui sont des criminels. Et la phrase à retenir, c'est qu'ils parlent comme des anges, mais pensent comme des assassins. Et c'est pas le droit à la vie qu'il faut. Il faut pas manifester pour le droit à la vie. Il faut manifester contre le crime, contre l'humanité. Vous avez des gens qui savent très bien se battre et ils attaquent. Il faut être attaquant. Alors je vais vous lire. Le code pénal actuellement, article 223.6 du code pénal actuel, sur le délit de non-assistance à personne à danger. Je vous lis.
Oui.
Quiconque pouvant empêcher par son acte immédiat, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire et puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Donc actuellement, tous ceux qui ne s'opposent pas à cette loi tombe sous ce coup, sont condamnables.
Vous avez raison, tout à fait.
Quel est le délit d'entrave maintenant qu'ils veulent mettre à la place? Donc ils inversent, tu ne tueras pas quand tu peux tuer, et ils inversent la loi, je vous lis, le délit d'entrave prévu par la loi d'euthanasie pour assistance à personne en danger. Les députés ont validé la création d'un délit d'entrave ou droit à l'aide à mourir. Prévoyant une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende pour quiconque empêche ou tente d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur cette aide. Donc on a l'inversion du langage qui vient d'ailleurs d'être dénoncée par le Premier ministre. C'est-à-dire que le cornu vient de dire « Ah, le combat culturel, maintenant c'est sur l'inversion des valeurs ». Donc on est dans le sujet, on est dans 2 systèmes inverses, un système criminel que nous devons combattre et le système humain, de notre civilisation et du bien commun que nous devons refaire triompher.
Et encore, une deuxième lecture du député au Parlement instaurait un deuxième délit sanctionnant l'effet d'exercer des pressions sur une personne vulnérable afin qu'il ait recours à l'aide à mourir. Ça veut dire, ils ont mis 2 déjà. Donc, en troisième lecture, ils vont peut-être mettre en troisième. On ne sait pas. Donc, voilà les principes. Parce que vous savez, quand vous commencez à céder, les mâles, ils avancent, ils veulent plus. Donc, d'une manière très claire. Donc, avant, c'était l'avortement. Après, on a mis les délits d'entrave à l'avortement. Avant le délit, on a remboursé par la Sécurité sociale. Et maintenant, combien d'États a pris les conseils constitutionnels en 75 pour approuver la loi Veil? Ils ont eu un problème. Parce que dans la Constitution, c'est marqué les droits à la vie, c'est une loi sacrée. Pourquoi ces verrous à sauter? À mon avis, c'est quelque chose de très clair. Les verrous à sauter, bien sûr, certainement, il a dû avoir des pressions du président Giscard à l'époque, c'est lui qui avait suggéré la loi. Mais deuxième chose, ça veut dire qu'il n'avait pas eu de combattants suffisamment pour agir, à mon avis. Oui. Il suffit d'avoir des personnes convaincues ici, devant moi, il y en a deux, au moins un, ici, monsieur Aaron Opinski. Et donc, je pense, sur ce point de vue, si on est vraiment convaincu, on sait se battre et on doit, à mon avis, dire de manière très claire, l'histoire est faite des personnes qui ont envie de se battre, première chose. Deuxième chose, les personnes qui ont des convictions. Parce que tout ça, ce sont des principes de la vie, comme vous l'avez très bien dit, c'est un droit sacré à la vie. Mais d'où est-ce qu'il vient ces droits? Ça vient de là-haut, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc dans toutes les religions, on a un Dieu. Donc moi, je suis catholique, pour moi c'est très clair. Mais en plus, il a des principes très clairs, des points tués, que je pense que vous l'avez cité. Cinquième commandement de la loi de Dieu. C'est déjà bafoué avec l'avortement. Parce que là, c'est tuer une personne innocente. Mais maintenant, c'est tuer des personnes en vie. Parce qu'une personne handicapée, elle risque vraiment de passer. Et j'ai vu dans les Figaro, les fans de Sébène, un témoignage très intéressant, mais c'est lui, Benoît Barthes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Lui était un directeur d'une société de cosmétiques. Et à 63 ans, il a découvert, il a fait un examen, qu'il a la maladie de Charcot. Donc il s'est dit, bon, je vais abandonner mon travail, je vais parler avec les présidents, etc. Il a senti tout le temps, les présidents, il s'est dit, écoutez, au contraire, on va aménager votre bureau. Si vous avez difficulté à vous déplacer, tous les employés sont venus. Non, au contraire, continuez à travailler parce que vous êtes quelqu'un de très bon, notre société avance. Donc il s'est rendu compte, au fond, que quand quelqu'un a une maladie, il faut au contraire les traiter bien. Il a envie de vivre. Il écrit une lettre à Macron, au Premier ministre, maintenant, en disant, écoutez, le débat à la fin des vies vient de lancer une véritable ode à la vie. Il dit de manière très claire, ce qu'on doit donner envie, c'est de vivre. Parce que la vie, c'est quelque chose de bon, surtout qu'on est bien traité. Et donc, les personnes qui sont malades, les personnes qui ont des souffrances, c'est qu'ils ont besoin d'être aidés par d'autres. Les contacts humains est primordial. Par contre, la piqûre, c'est quoi? C'est la piqûre, c'est condamner quelqu'un, donc il ne pourra plus rien dire. Deuxième chose, l'État va avoir la retraite qu'il ne va pas payer, tout ce qui s'ensuit, et surtout dans la situation où se trouve actuellement la France, cette loi sera pratiquée largement. Et troisième chose qui, à mon avis, est très claire, la personne qui le demande vis-à-vis de notre Dieu. Disons les choses qui sont, c'est une faute contre notre créateur, parce que d'habitude la mort, on est tous pour la mort naturelle, ça veut dire, bon, la mort c'est le Dieu que l'envoie. Et donc là, c'est demander notre mort à une date fixe. Donc là, c'est un principe, à mon avis, ça va contre le créateur, donc d'une manière automatique, ça va contre tous les principes, toutes les croyances. Donc c'est pour ça, je pense, en tant que catholique, qu'il devrait avoir une réaction très forte. Deuxième chose, tous les hôpitaux, vous savez qu'il y a pas mal d'hôpitaux où il y a encore des religieuses. Ces religieuses, si cette loi passe, elles ne pourront plus rester dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, les petites sœurs des pauvres, ils l'ont dit de manière très claire, écoutez, si cette loi passe, on sera obligé de laisser tous les hôpitaux et partir ailleurs. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, on va perdre des religieuses, je ne sais pas, il y a des milliers, je ne sais pas combien, mais au moins. Deuxième chose qui est intéressante, ces religieuses, ils devraient manifester, devraient demander à nos évêques, à nos prêtres, de parler dans les sermons, d'organiser des veillées, des prières, d'organiser, demander des messes. Donc je pense, à mon avis, c'est quelque chose de primordial, parce que, bien sûr, nous avons en effet téléphoné un député, les contacter, l'envoyer un email, parler avec son assistant parlementaire, parce qu'un assistant parlementaire, c'est important, parce que lui-même, il est obligé soit à faire un petit rapport écrit, soit à parler avec les députés. Il dit, écoute, 10 personnes, 5 personnes ont téléphoné contre ces lois, peut-être il vaut mieux pas la voter, sinon on risque de perdre plus que de gagner. Donc, à mon avis, il y a pas mal de méthodes pour obtenir que ces lois ne passent pas. Mais je pense que le primordial, c'est de demander au bon Dieu de nous donner la force d'agir. Première chose. Deuxième chose, d'agir. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux autres agir, c'est nous-mêmes donner l'exemple. Quatrième chose, à mon avis, c'est défaire, comme elle l'a expliqué très bien, c'est langage diabolique, j'ai dit, parce qu'on trompe les personnes. Et quatrième chose, les journalistes. Les journalistes vont toujours répéter, vous savez, d'une manière très claire, vont toujours répéter ce qui va dans la vague. Ils vont pas, sont des personnes qui aiment avoir ce qu'on appelle faire des scandales. Et donc les journalistes, pas ceux de Radio Courte aussi, grâce à Dieu, qui disent les vérités et qui sont des journalistes, des personnes qui sont pondérées, et c'est pour ça Radio Courte aussi est tellement, on peut dire, persécutée, n'est-ce pas, avec toutes les... Mais de manière générale, ils veulent faire carrière en faisant du scandale. Et donc, ils vont, j'ai toujours écouté dans les émissions à la radio, donc France Info par exemple, je l'appelle Gauche Info, parce que vraiment c'est une radio qui est à sens unique, mais toutes les radios, à exception quelques-unes, des radios Sud Radio qui des fois elles disent les vérités, ou d'autres radios, mais d'habitude, ils font des éloges de cette loi. Pourquoi? Non, c'est une liberté de plus. Et donc là aussi, on trompe, c'est pas une liberté de plus. Parce que tuer, c'est pas une liberté. Et je pense à mon ami, vous serez d'accord, lors de la Première Guerre mondiale, pourquoi on s'est battu? Pour notre vie, pour notre nation. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi on s'est battu? Pour notre vie, pour notre nation. Aujourd'hui, en Allemagne, cette loi serait impossible de passer. Parce que même l'avortement en Allemagne n'est pas... Vous savez que l'Allemagne a une population de 82 millions d'habitants, ils ont 90 000 avortements. Tandis qu'en France, on est 62 millions d'habitants, on a 250 000 avortements. Oui. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, ils sont restés avec un réflexe, ah, ça c'est pas bon. Et l'euthanasie ne passerait jamais en Allemagne. Parce que du point de vue psychologique, c'est quelque chose, aucun responsable pourrait oser faire une chose pareille.
Oui. Je crois qu'il faut bien cibler. C'est-à-dire que, ce que j'ai dit aussi, la deuxième fois que le mot mort est utilisé, c'est que la loi voudrait, la loi qui ne passera pas, va obliger les médecins à marquer mort naturelle. Donc je veux dire, il faut, si vous voulez, vous avez parlé du côté religieux. Oui. Moi je constate que les autorités religieuses sont silencieuses. Je constate que les autorités rationnelles, toutes celles qui recommandent de la raison, de la liberté, sont silencieuses. Je constate que les autorités démocratiques sont silencieuses. Donc il faut se battre chacun avec ses valeurs, mais les catholiques, vous l'avez dit, qui se battent religieusement, mais feraient bien de sonner un peu les cloches de leur autorité qui ne font rien. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils se taisent? Deuxièmement, ceux qui se réclament de la raison, des lumières, etc., de l'humanisme, comme l'a fait Macron, comment se fait-il que cette loi soit un crime contre l'humanité? Et les troisième chose, la démocratie, c'est une loi antidémocratique. Donc elle est illégale, immorale, usurpation d'autorité, etc. Il faut se battre là-dessus. Chacun ayant, évidemment, son logiciel. C'est totalement sur ce plan-là qu'il faut se battre. La loi, si vous voulez, c'est contraire à la loi. On dit la loi, non, c'est contraire à la loi. Je vous rappelle, contraire à la loi naturelle, qui est dans le bloc de constitutionnalité. Et donc, il faut se battre chacun, mais toutes les autorités sont silencieuses. Mais ce n'est pas la peine d'élargir au reste, comme vous l'avez fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser. C'est le crime ultime que personne ne peut nier, puisqu'il le touche personnellement, si vous voulez. Voilà. Nous sommes tous engagés, et c'est un peu le combat que nous ne pouvons pas perdre.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a le satanisme là-dedans. Là, on est dans le religieux, mais est dans le mensonge. Vous l'avez dit vous-même. Or, le mensonge, c'est Satan.
Tout à fait. Les pères de le mensonge, c'est Satan.
Là, si vous voulez, employez certains mots, comme celui que vous avez prononcé, vous rentrez dans un champ sémantique que les ennemis de l'humanité utilise pour disqualifier. Donc ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis chacun a son langage, mais là, c'est pour ça que je dis au nom de toutes les autorités. Alors, votre langage va toucher certains, mais l'autre veut dire mais non, etc., etc. Là, il n'y a aucune opposition possible au fait que c'est un crime contre l'humanité. Alors, au nom de Dieu, au nom de la raison, au nom de la philosophie, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme.
Qui vont revendiquer, c'est le nom du fric.
Oui, alors là, maman.
Voilà.
Et c'est pour ça que moi j'attends la réponse de tous ceux dont j'ai parlé, c'est-à-dire que, comme je le fais d'habitude, c'est incontestable. C'est-à-dire c'est un crime contre l'humanité au sens religieux, au sens humaniste, au sens commun du terme, c'est cette loi est l'ennemi de l'homme, si vous voulez. Et il n'y a aucune justification, sinon, vous l'avez dit, Mammon, les intérêts cachés, se débarrasser des vieux, les retraites, les trucs.
Et bon, les inutiles, et on voit ceux qui coûtent cher, etc.
Ils sont les plus vulnérables. Alors qu'en principe, la démocratie se recommande des plus vulnérables, les chrétiens aussi, tout le monde, etc. Mais sur ceux qui passent à la casserole. Si les premiers.
Juste pour vous dire, notre dernière. On vient de lancer la pétition pour le député, mais aussi une supplique adressée au pape. Léon XIV qui va venir en France, n'est-ce pas? Justement pour demander...
Il va venir quand, d'ailleurs?
Comment?
Il vient quand en France?
Au mois de septembre.
D'accord.
Et donc pour demander qu'il demande aux évêques d'agir. Parce que et en félicitant que le pape il agit, lui-même dans les discours qu'il a fait devant les corps diplomatiques à Rome, maintenant en Espagne, partout. Mm-hmm. Mais en France, nos autorités religieuses, la moindre des choses qu'on peut dire, sont très timides. Ouais. Parce qu'il y a quelques voix un peu à droite, France. Mais pas à gauche surtout. Ouais. Mais il y a, c'est quelque chose qui, à mon avis, est atroce. Ça veut dire le peuple catholique, disons de manière très claire, parce que je suis pratiquant, on n'entend pas. On entend seulement un son des cloches dans les médias officiels. Mmh. Et donc, j'estime, à mon avis, tous les radios catholiques, etc., etc., devraient en parler et citer cet exemple de votre livre, par exemple, parce qu'à mon avis, je pense que c'est primordial que les personnes sachent. Et deuxième chose, qui commence à agir. Parce que c'est primordial agir. Et une des choses qu'à mon avis, il ne faut pas perdre l'envie de se battre. Parce qu'à partir du moment où on perd l'envie de se battre, vous savez, les Allemands, au moment des guerres, ils disaient de manière très claire, pour vaincre un peuple, il faut enlever l'envie de se battre. C'est très simple. Même si vous avez une très grande armée, si vous avez l'envie de vous battre, vous n'arrivez pas. Et donc, je pense, à mon avis, là, c'est la première des conditions. Et deuxième des conditions, en France, nous avons combien de millions de retraités? Mes souvenirs sont bons, c'est plus de 15 millions. Voilà. Donc, je pense que ces personnes sont vraiment concernées. Parce que cette loi va les toucher d'abord eux. Et deuxième chose, je pense aux jeunes. Parce qu'après avoir un accident de moto, etc., il y a beaucoup d'accidents de la route avec les jeunes. Ils peuvent décider, ah, il va vivre sans une jambe, il va vivre avec un bras de moins, il vaut mieux le piquer.
Oui, ici,
donc là aussi, je pense, à mon avis,
il faut être clair. Ils ont combattu pour Vincent Lambert, par
voilà,
exemple.
Voilà, les cas de Vincent Lambert.
Vous avez totalement raison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le point névralgique sur lequel on peut agir. Qu'est-ce que c'est qu'un député? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à sa réélection.
Tout à fait.
Et le reste, il n'en a absolument rien à faire. Donc, il faut le mettre sur la boucle personnellement. Et là, je vous dis quand même, la question importante pour gagner, puisqu'il est minuit moins le quart... Pour que le Vatican se réveille, pour que les évêques, pour que la franc-maçonnerie dise enfin qu'elle condamne, excusez-moi l'humour, puisque
je ne pense pas qu'ils vont les dire.
Et justement, moi, je leur demande.
Oui,
la réponse,
je vais te montrer.
Puisqu'ils se battent pour l'humanisme, si j'ai bien compris, le bonheur de l'humanité. Jouons le jeu, si vous voulez. Mais je vous dis, c'est que la stratégie, c'est pour ça que je me suis dit, il faut gagner. Gagner, c'est une stratégie. Or, j'ai dit, il faut un but, un plan, une méthode. Le but, c'est obtenir la majorité des voix pour recouvrer notre souveraineté représentative de la volonté générale. C'est elle qui est en cause et faire ainsi triompher le rejet de cette loi de mise à mort. Il faut la pulvériser. Deuxièmement, le plan. Il faut partir du constat qu'il suffit d'un gain de 37 voix seulement pour assurer la victoire du rejet de la loi de mort, qualifiée de fin de vie à l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. C'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Le Sénat étant déjà contre et donc exercer la pression morale légal maximum nécessaire pour gagner 37 voix sur 299. C'est quand même pas la mer à boire.
C'est faisable.
La méthode, partant du constat que l'Assemblée nationale tombe sous le coup d'une qualification pénale d'association de malfaiteurs et une condamnation du chef de crime contre l'humanité, faire un rappel à la loi à chacun des 299 députés délinquants comme favorable à la loi de mise à mort des plus vulnérables pour lui signifier que désormais, mis sans relâche au pilori de la honte, seront frappés d'inéligibilité à vie tout député qui votera la loi de mise à mort des plus vulnérables.
Cette phrase finale, il faut l'utiliser.
Page 14. Et là, si vous voulez, moi, dans ma vie, j'ai toujours utilisé le droit. Quand vous avez le droit, c'est le syllogisme judiciaire, comme on l'appelle, eh bien, en face, ça craque. Et là, il ne faut pas les attaquer avec les grandes idées, etc. Ce sont des délinquants, si vous voulez, et les attaquer sur le point faible, c'est leur intérêt personnel. Il faudra faire en sorte, les suivre, qu'ils ne soient plus jamais élus. Mais d'abord, les convaincre. Qu'est-ce qu'ils répondent? Quand vous dites ça à votre député, vous le tutoyez, vous le voyez, suivant vous le connaissez, vous dites, mais tu vas te permettre, toi, c'est toi qui vas décider que je vais mourir. Parce que ce qui est décidé, il y a 3%, il y a 3% de ceux qui voulaient être euthanasiés, qu'ils maintiennent ce qu'ils voulaient. Parce qu'à un moment de désespoir, chacun de nous dit, j'en ai assez de la vie. Mais il suffit qu'un médecin, parce que maintenant, je ne vais pas vous dire ce qui se passe réellement, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas déjà des euthanasies.
Ah oui, bien sûr, je connais, oui, j'ai bien vous inciter.
Nous connaissons tous des gens qui sont suicidés. Hein, oui, si vous voulez vous suicider, vous n'avez pas besoin d'une loi. Le problème de la loi, c'est qu'elle vous fait rentrer dans un entonnoir et il n'y a plus de retard. On dit, ah mais oui, il l'a dit, il ne peut pas parler, etc. C'est ça l'abomination.
Il y a déjà, il y a déjà le suicide assisté, hein, ça existe.
Oui, mais même dans la loi
les paysans ont beaucoup de suicides assistés maintenant.
Oui,
hein.
Et puis des politiques aussi qui devaient révéler des tas de choses très intéressantes. Voilà. Hein, on
a croisé, l'ancien président du groupe républicain.
Olivier Marleix, un suicide très étonnant.
Assisté. Voilà, c'est
oui, c'est très très courir son cas, oui, tout à fait.
Ça a toujours existé d'ailleurs, hein, malheureusement.
Non, mais c'est l'abomination de l'abomination. Et là, nous ne pouvons pas perdre cette loi. Mais si par malheur elle passait, eh bien, elle sera annulée comme Badinter l'a fait pour les condamnés, pour les criminels. Et là, ça sera pour les innocents.
Oui, ce qui est beaucoup plus beau, évidemment, comme combat.
Voilà. Donc je vous dis, si vous voulez signer notre pétition adressée aux députés pour que ce ne soit pas réélu s'il vote cette loi, sur le site droitdenaître.org.
Droitdenaître.org.
Et vous avez Action. Et donc de l'Action, vous avez notre dernière pétition qu'on l'a fait récemment.
C'est un modèle
on
de
a déjà pu voilà pour envoyer aux députés. Deuxième chose, n'hésitez pas à téléphoner. Donc nous-mêmes, on va envoyer après quelque chose parce que je pense à mon avis l'Assemblée nationale. Vous savez, on peut citer les liens de l'Assemblée nationale avec les téléphones parce qu'à mon avis, un appel téléphonique a du poids.
Écrire aussi.
Et surtout parler à vive voix.
Il y a des permanences. Il y a des permanences des députés. Il faut y aller.
Oui, tout à fait. Et il a des permanences en Provence et à Paris. Il a deux permanences parce que chaque député a les droits d'avoir deux permanences. Ah, et d'accord. Les deux permanents sont obligés à donner un rapport au député. Il a indiqué, voilà.
Il y a eu des manifestations devant les tribunaux, pourquoi pas devant les permanences.
Tout à fait. Ouais. Et deuxième chose qui, à mon avis, est très important, et c'est manifester la de cette loi. Parce que je pense, à mon avis, les députés ne s'aperçoivent pas, parce qu'on vous dit, les sénateurs sont plus âgés, ils savent très bien, mais les députés, la plupart sont plus jeunes, et eux-mêmes, ils ne s'aperçoivent pas.
Oui. Mais c'est comme Macron, il n'a pas conscience de sa mort encore.
Vous n'en faites pas, Macron, il est tout à fait conscient de l'intérêt qu'il a. Vous savez que Olivier Marleix, qui s'est, dit-on, suicidé, moi je n'y étais pas, je ne peux pas vous dire, mais à Net, personne ne pense qu'il a pu se suicider.
Oui,
mais qu'est-ce qu'il avait fait ?
Sa famille ne pense pas d'ailleurs.
Olivier Marleix avait dénoncé un pacte de corruption de Macron. Le pacte de corruption, c'est que vous êtes élu par les gens que vous avez avantagés. Eh bien, tout ça a été classé, si vous voulez.
Alors, Macron,
il sait très bien ce qu'il fait.
Oui, je pense.
Il y a beaucoup de choses qui sont classées. Vous prenez l'incendie Notre-Dame, bref.
N'élargissons pas le champ.
Voilà. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Mais là, on parle du suicide.
Parce que dépasser l'objectif, c'est le manquer.
Ouais. Donc on parle justement d'éviter cette loi magnifique,
alors,
je dirais,
de
manière très claire.
L'euthanasie et combattre.
Voilà. Donc je passe ici les diverses pétitions que nous avons faites depuis 2 ans. Ouais. Et ils ont porté leurs fruits parce qu'on s'est rendu compte, petit à petit, il y avait plus de députés, plus de sénateurs qui nous répondaient. Et deuxième chose, plus de députés et sénateurs qui ont voté contre. Donc, à mon avis, ça prouve très bien qu'il y a un effet. Deuxième chose, bien sûr, ils nous écrivent, on prend contact. Bref, d'où l'importance d'avoir une association comme Droit Net qui essaye de peser. On n'est pas les seuls, grâce à Dieu, parce qu'il y a d'autres associations aussi pour vie qui agissent. Et donc, ça fait un réseau. Et donc, une toile d'araignée qui s'est élargie. Et donc, ça a un poids. Maintenant, on demande aux personnes qui, d'une manière forte, qu'ils agissent aussi de leur côté, parce que aussi ça a du poids. Si vous êtes dans l'Aveyron, votre député sur place, vous pouvez les voir en disant écoute, parce
c'est
que les députés sont beaucoup plus sensibles aux électeurs de sa circonscription.
Bien sûr.
Et voilà.
Nous condamnons du chef de crime contre l'humanité. Il faut condamner.
Voilà. C'est un bon mot que j'ai bien aimé que vous utilisez là.
Eh bien, l'émission va bientôt se terminer. Il me reste à vous remercier, Arnaud Upinski. Et monsieur Georges Martin, n'est-ce pas ?
Surtout droit d'être.
Voilà. Et il faut combattre. Et je rappelle ce petit livre là d'Arnaud
Ce Pinsky, manifeste.
Ce manifeste qui n'est pas un pavé, mais qui est un pavé dans, et pas un pavé physique, mais un pavé dans la mare.
Hein. Excellent.
Et voilà donc ce livre que je vous recommande.
La mare au diable.
Aux éditions du BIEF. Voilà. Eh bien, luttons, battons-nous.
Et triomphons
contre cette horreur de l'avortement, après cette horreur des tueurs de bébés. Maintenant, ce sont des tueurs de vieillards. Ce n'est pas glorieux. Et voilà. Et luttons contre ces choses que moi je dis sataniques. Merci à vous.
Merci. Merci.
Vous venez d'entendre Anthologie de la création dirigée par Daniel Abrecorne. Émission préenregistrée le 9 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 2 juillet de 10h à 11h et réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.